RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici donc le journal. Nous commençons avec les titres. Le ministère indonésien des communications et des technologies de l'information a bloqué 800 000 sites négatifs et fourni 200 sites positifs. L'éducation est le meilleur secteur pour l'amitié entre la Malaisie et l'Indonésie. Trois réalisations importantes de l'Indonésie dans la protection des femmes. Le Conseil indonésien des ulémas MUI est neutre dans la conférence trilatérale des ulémas. La Chambre de commerce indonésienne organisera à nouveau le 4e sommet de Jakarta sur la sécurité alimentaire au JVWS et enfin, l'Indonésie partage l'expérience de la lutte contre le terrorisme au Myanmar. Voici le journal complet. Le ministère indonésien des communications et des technologies de l'information ou Kominfo a bloqué 800 000 sites négatifs. Cela a été déclaré par le ministre de Kominfo, Rudiantara, lors de sa visite au séminaire Go Digitalisasi qui a eu lieu à Pangkal Pinang, les îles de Bangka Belitung, mardi. Selon le ministre, le blocage des sites négatifs et l'engagement du gouvernement à protéger les enfants de la nation d'influences négatives de l'Internet. Kominfo a fait de 100 000 sites positifs et utiles pour les enfants indonésiens.
Itu bergantung kepada stakeholders utama. Siapa stakeholders utama itu? Tentunya Kementerian PPA.
Cela dépend des principales parties prenantes. Toutes les parties prenantes telles que le ministère de l'autonomisation des femmes et de la protection de l'enfance ou PPA, le ministère de l'Éducation. Maintenant, les enfants ont le plus de temps à l'école, les représentants de la société et les parents. Si tout le monde est d'accord, c'est bien, mais cela dépend de la conversation. Le but principal est de garder nos enfants exposés à un contenu négatif. 800 000 sites négatifs qui sont déjà bloqués, mais nous fournissons un site web positif, surtout pour les écoliers. Il y en a plus de 200 000, mais je suis sûr que les sites positifs seront plus que les sites négatifs. Bien que les sites négatifs dominent l'Internet, selon Rudiantara, avec les efforts qui sont faits intensivement, la domination va inverser. Et ces efforts devraient être faits par toutes les parties prenantes concernées pour protéger la génération contre des effets négatifs de l'Internet. L'ambassade de Malaisie en Indonésie, via la collaboration avec l'éducation Malaisie Global Service et de l'éducation Malaisie Indonésie, organisera le carnaval Aller étudier en Malaisie qui aura lieu dans le complexe de l'ambassade de Malaisie à Jakarta les 10 et 11 mars. Selon l'ambassadeur de la Malaisie Indonésie, Datuk Seri Zahrin Muhammad Hashim, dans une conférence de presse sur le carnaval à l'ambassade de Malaisie à Jakarta, l'éducation est le meilleur secteur pour établir l'amitié entre les deux pays. La Malaisie et l'Indonésie et il garantit qu'il y aura l'offre la meilleure coopération pour l'Indonésie.
Saya yakin dan percaya sektor pendidikan adalah sektor terbaik untuk persahabatan.
Je crois que le secteur de l'éducation est le meilleur secteur d'amitié entre deux pays, confirmé et renforcé. La proximité de la Malaisie en tant que plus proche voisin, la qualité de l'enseignement supérieur reconnu, ainsi que des frais de scolarité abordables, assure la meilleure offre de coopération pour tous les citoyens de l'Indonésie. Selon Datuk Jahren, au carnaval, il y a l'offre 5000 bourses pour le programme S1, S2 et S3 dans 300 programmes d'études différents pour l'année scolaire 2018-2019. Jusqu'à présent, il y avait 29 universités publiques et privées qui participent à ce carnaval. Le secrétaire général du réseau d'action musulman asiatique d'Indonésie, Ruby Khalifa, a mentionné trois réalisations importantes de l'Indonésie dans la protection des femmes au cours des 20 années de l'ère de réforme. Les trois réalisations sont dans le domaine de la réforme institutionnelle, la réforme juridique et le développement du mouvement des femmes. Cela a été dit par Ruby Khalifa à La Voix d'Indonésie dans une interview sur le thème de la Journée mondiale de la femme à Jakarta mercredi.
I can mention like three important achievements for Indonesia.
Il y a trois réalisations importantes pour l'Indonésie. Premièrement, la réforme institutionnelle en ce qui concerne l'autonomisation des femmes et l'égalité des sexes. La deuxième est la réforme juridique. Nous avons déjà l'instruction présidentielle numéro 9 de 2000 sur l'intégration du genre qui est la base du gouvernement dans l'effort d'intégration du genre à tous les niveaux des décideurs. La troisième réalisation est le mouvement des femmes. Ils essaient d'assurer que le programme de décentralisation touche réellement à l'autonomisation des femmes et à la protection des enfants. Concernant la réussite, nous avons de nombreuses réalisations dans la protection des femmes. Ruby Khalifa a également dit qu'il y avait le ralentissement de la mise en œuvre des politiques d'intégration du genre et la réalisation du programme d'autonomisation des femmes. Par conséquent, elle souhaite que le gouvernement puisse donner plus d'attention à la protection des femmes et aux droits des femmes. Si le gouvernement ne répond pas bien, l'Indonésie perdra l'opportunité de protéger les femmes. Muhyiddin Junaidi, président de la division des affaires étrangères du Conseil des ulémas indonésiens, MUI, a déclaré que la conférence trilatérale des ulémas sur le thème « Le rôle des ulémas dans la création de la paix » était un forum pour transmettre des idées et des opinions en tant qu'ulema pour créer la paix. MUI organise actuellement une coordination intensive avec l'Afghanistan et le Pakistan afin de déterminer la date exacte de la conférence qui se tiendra prochainement à Bogor dans l'ouest de Java.
Undang mereka ke sini dan kita akan netral. Kita hanya ingin berbicara.
Nous voulons les inviter et nous serons neutres. Nous voulons parler en accord avec notre capacité en tant que Conseil des ulama indonésiens, en particulier en ce qui concerne l'émission de fatwa. Une fois la réunion terminée, nous tiendrons la prochaine réunion où nous inviterons de nombreux pays. Muhyiddin Junaidi a déclaré qu'il est important pour l'Indonésie de ne pas offenser les sentiments du peuple afghan. Comme tenu, plutôt la demande de faciliter le processus de paix de l'Afghanistan a été rejetée par l'Égypte, l'Arabie Saoudite et le Qatar. Pendant ce temps, à la conférence du processus de paix de Kaboul, assistée par représentants de 24 pays, y compris l'Indonésie, à la fin du mois de février à Kaboul, a publié 7 points d'accord. Ces points d'accord sont entre autres, le gouvernement de l'Afghanistan est prêt à maintenir le dialogue, à maintenir la paix, à donner l'opportunité à Taliban d'entrer dans la lutte politique pas d'armes. La Chambre de commerce et d'industrie indonésienne, ou Kadin, organisera de nouveau le sommet de Jakarta sur la sécurité alimentaire en 2018, après avoir tenu avec succès des réunions similaires en 2010, 2012 et 2015. La réunion se tiendra à Jakarta Convention Center les 8 et 9 mars et divisé en deux parties, à savoir des séminaires et des discussions ainsi que des expositions. Le quatrième GWFS a lieu sur le thème de l'équité économique des secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche par le biais de politiques et de partenariats. C'est ce qu'a affirmé le vice-président de CADIN des affaires de l'industrie, de l'alimentation et de l'élevage, Juan P. Adu, lors de sa conférence de presse à Jakarta mardi le 6 mars.
Bahwa acara ini dilaksanakan di JCC.
L'événement aura lieu à JCC et est également divisé en deux endroits, l'un dans la salle de Cendrawasih pour les séminaires et les dialogues et dans la salle de réunion pour les rapports des entrepreneurs qui ont fait des partenariats avec les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs. Nous invitons également le président à assister à deux endroits pour voir le développement du partenariat qui a été mis en œuvre, qui est en course et continuera d'être développé. Juan P. Adu, qui est également le quatrième directeur général de GFFS, a expliqué qu'en plus d'impliquer les hommes d'affaires, le GFFS impliquera également le gouvernement, les experts, les universitaires et les agriculteurs. Il a mentionné GFFS serait suivi par 1000 participants de la conférence. Comme des événements précédents, le quatrième GFFS sera également équipé d'expositions de produits alimentaires nationaux et des dernières innovations en matière de technologie de la finance agricole. Le ministre coordinateur pour les affaires politiques, juridiques et de sécurité, Wiranto, au siège de KPO à Jakarta, a déclaré mardi que l'Indonésie partagerait l'expérience et les connaissances en matière de lutte contre le terrorisme avec le gouvernement du Myanmar. Il a ajouté que sa partie avait donné la liberté au Myanmar d'envoyer son personnel d'étudier à l'Université de défense indonésienne à Sentul, Java occidental. Wiranto a déclaré que le Myanmar est vulnérable à l'existence du terrorisme croissant, en particulier la force de l'État islamique en Irak et en Syrie, ISIS, qui craignait de monter sur les réfugiés Rohingyas qui retourneront dans l'État de Rakhine. Il a dit, précédemment, ISIS avait essayé de construire une base à Poso en Indonésie, mais il avait été déjoué par le gouvernement indonésien. De même à Marawi aux Philippines, qui a également échoué. Par conséquent, il est très probable qu'il dirige vers l'État de Rakhine au Myanmar. Serviteur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Serviteurs, voici donc le commentaire et pour le titre « Réduire la violence contre les femmes par l'autonomisation ». Le 8 mars est célébré dans le monde entier comme journée internationale de femmes. Cette célébration est une forme d'appréciation de la réussite des femmes dans divers domaines, allant de la politique aux sphères sociales. En même temps, cette célébration montre aussi qu'il y a beaucoup de travail à faire. L'un d'eux est le niveau de violence contre les femmes. La Journée internationale des femmes a une longue histoire de manifestations de femmes en Amérique et en Europe pour revendiquer leurs droits au début du XXe siècle. Le 8 mars a été choisi pour commémorer les manifestations massives et les grèves de femmes qui ont eu lieu en Russie le 8 mars 2017. En 1977, la Journée internationale de la femme a été inaugurée comme une célébration annuelle par les Nations Unies pour lutter pour les droits des femmes et pour réaliser la paix mondiale. Selon l'ONU Femmes, le thème de cette année est le temps est maintenant des activistes urbains et ruraux transforment la vie des femmes. Ce thème est inspiré de la campagne Tagar MeToo aux États-Unis et dans d'autres pays du monde, tels que la France, le Mexique, l'Italie et même les pays arabes. La campagne a été menée pour montrer l'ampleur de l'incidence de la violence et du harcèlement sexuel contre des femmes, en particulier sur le lieu de travail, ce qui s'est déjà produit. La Journée internationale des femmes veut un mouvement pour soutenir les victimes de harcèlement sexuel. En outre, le thème de cette année veut aussi le plaidoyer ou l'assistance juridique donnée aux survivants et la punition aux auteurs. L'une des mesures qui peuvent être prises pour réduire la violence contre les femmes est l'autonomisation. Lors du Forum des Nations Unies à New York en septembre 2015, tous les pays membres de l'ONU, y compris l'Indonésie et ONU Femmes, ont lancé la planète 2030. L'objectif à atteindre en 2030 est l'égalité des sexes 5 ans sur 5 ans ou les conditions dans lesquelles un pays a créé la justice et l'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les aspects. Cela peut être réalisé en augmentant l'autonomisation des femmes dans divers domaines. L'autonomisation est la clé pour éliminer la violence et améliorer la dignité des femmes. Cette autonomisation peut commencer par l'instillation des valeurs qui respectent l'existence des femmes dans la famille. En outre, les femmes doivent être autonomisées sur le plan économique, car l'économie familiale devient l'une des causes de la violence et les femmes jouent un rôle majeur dans l'économie familiale. L'autonomisation doit être faite dès le début, y compris en Indonésie, en inculquant une éducation égale et diverses compétences pour les filles. Cette tâche incombe à toutes les parties d'éliminer la violence contre les femmes, car un résultat final peut être atteint. Chers lecteurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 8 mars 1917, la révolution russe de février a éclaté. Le 8 mars 1917, une révolution nommée la révolution de février a éclaté la Russie et renversé Charles Nicolas II. Il a nommé la révolution de février parce que à cette époque-là, la Russie utilisait le calendrier julien où ce jour-là tombait le 23 février. Les dizaines de milliers de Petrograd ou de Saint-Pétersbourg sont descendus dans les rues pour protéger le manque de nourriture qu'ils subissaient. L'armée royale est intervenue et ensuite il y avait des émeutes. Une semaine plus tard, l'empereur Nicolas II a été renversé et le règne de Charles ou empereur de terre était terminé. Cette révolution a éclaté parce que le peuple russe en avait marre du gouvernement char de la Russie et despotique et corrompu. L'empereur Nicolas II a dissous à plusieurs reprises à Douma où le parlement russe formé après la révolution 1905 chaque fois que la décision de la Douma était contre sa volonté. Cette instabilité politique a provoqué l'effondrement de l'économie russe et la perte de la Russie puisqu'il a rejoint de la Première Guerre mondiale. Après le renversement de Charles Nicolas II, Vladimir Lénine, chef du parti bolchevique, est devenu l'exil en Suisse et a dirigé la révolution communiste en Russie. Le 8 mars 1942, la Hollande se sont rendus au Japon. Le 8 mars 1942, après 2 mois de combat, finalement l'armée hollandaise qui avait colonisé l'Indonésie pendant 3 siècles s'est rendue aux troupes japonaises. Le 11 janvier 1942, le Japon a déclaré la guerre au gouvernement hollandais et envahissant Bornéo au Kalimantan et l'île de Celeb au Sulawesi. Après cela, le Japon a continué son invasion de Java. Les troupes japonaises ont atterri à Java depuis le 14 février. Les troupes hollandaises soutenues par l'Angleterre
et l'Australie sont incapables de résister à cette invasion japonaise et finalement, le 8 mars 1942, les Hollandais se rendent au Japon. Il a signé un accord de Kalijati près de Subang, Java de l'Ouest. Le 8 mars, la Journée internationale des femmes. Les organisations des Nations Unies ont créé la Journée internationale de la femme le 8 mars 1978. La date est officiellement incluse dans la liste recommandée par les congrès des organisations des Nations Unies. L'ONU consacre également le mars comme le mois de la femme. La détermination de la date basée sur l'histoire du mouvement des femmes à l'ère de l'industrialisation. Le 8 mars 1857, les travailleuses d'une fabrique de vêtements à New York protestaient contre les conditions de travail inhumaines et de bas salaires. Le 8 mars 1908, ce n'est pas moins de 15 000 travailleuses dans la même ville demandaient des heures de travail plus courtes et réclamaient des droits de vote. Les manifestations féminines organisées ne sont pas seulement engagées aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays d'Europe. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord Mon Indonésie.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Mon Indonésie, intitulée La revitalisation de l'écosystème de Tesonilo à base communautaire. Le ministère de l'Environnement et des Forêts fera la revitalisation de l'écosystème de Tesonilo à Riau afin de restaurer la fonction de la zone, la gestion des feux de forêt et de terre et aussi la prévention de l'exploitation illégale. Haryadi Kartodiharjo, le professeur de l'Université agricole de Bogor ou IPB, a déclaré lundi à Jakarta que cette revitalisation assurerait l'accomplissement des droits constitutionnels de la communauté, y compris l'amélioration de leur bien-être. En outre, il peut réaliser des certitudes commerciales basées sur les forêts et sur les terres, y compris l'harmonisation des relations entre les grandes et les petites entreprises. L'écosystème de Tesonilo comprend trois régions, telles que Kampar, Pelalawan et Kuantan, y compris le parc national de Tesonilo, et les zones forestières de production environnante d'une superficie totale de 900 000 hectares. Selon Haryadi Kartodiharjo, dans l'écosystème de Tesonilo, il y a 23 villages. 4 villages sont directement adjacents à la zone du parc. L'état de l'écosystème de Tesonilo est une typologie de problèmes complexes. Il a déclaré que les questions connexes entre les fonctions forestières, la faune et la flore rare, qui doivent être protégés, la dynamique socio-économique et politique des communautés locales, des coutumes et les nouveaux arrivants, ainsi les grandes entreprises doivent être traitées immédiatement. En plus de la nécessité de comprendre la racine du problème, la résolution de ce problème nécessite un processus social sur le terrain intensivement, ainsi que la compréhension et l'engagement des différentes parties. En réponse à cette condition, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et des Forêts, M. Bambang Hendriono, a déclaré que les activités de revitalisation ont été menées depuis 2016 par une équipe impliquant le gouvernement central et le gouvernement local. Pendant 2 ans, l'équipe a identifié, inventorié, vérifié les zones et les problèmes survenus sur le terrain. Le résultat est un cadre de revitalisation de la gestion écosystémique de Tesonilo avec une approche communautaire. Ce programme sera géré par l'équipe implémentation. Il a déclaré que les principaux mécanismes de la mise en œuvre de cette revitalisation sont les instruments de la foresterie sociale, de la réforme agraire, en plus de l'amélioration de la gouvernance de l'huile de palme et la construction des marchés et des infrastructures. Ceci est fait pour le développement économique de la société. Selon M. Bambang, le processus à ce jour continue à fonctionner, y compris l'application de la loi. Ainsi, il est simultané les exécutions de la loi, les opérations de foresterie sociale, la réforme agraire fonctionne et finalement l'unité de l'écosystème peut être restaurée. Chers amis, c'était Mourir Nézi.
Serviteur, bonsoir. Voici donc le journal. Nous commençons avec les titres. Le ministère indonésien des communications et des technologies de l'information a bloqué 800 000 sites négatifs et fourni 200 sites positifs. L'éducation est le meilleur secteur pour l'amitié entre la Malaisie et l'Indonésie. Trois réalisations importantes de l'Indonésie dans la protection des femmes. Le Conseil indonésien des ulémas MUI est neutre dans la conférence trilatérale des ulémas. La Chambre de commerce indonésienne organisera à nouveau le 4e sommet de Jakarta sur la sécurité alimentaire au JVWS et enfin, l'Indonésie partage l'expérience de la lutte contre le terrorisme au Myanmar. Serviteur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et Malang.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec le magazine culturel et cette fois nous allons présenter la province d'Aceh. Surtout, nous allons visiter la place de Kuala Lumpur. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial Radio République Indonésia, la voix de l'Indonésie. Banda Aceh est l'un des régions en province d'Aceh. Son emplacement est la pointe de l'île de Sumatra. Géographiquement, cette région est directement adjacente à l'ouest, à l'est et au nord avec l'océan Indien, la baie Bengala et le détroit de Malacca. Donc il n'est pas surprenant que ce quartier est doté de belles plages. Pour ceux d'entre vous qui aiment le tourisme maritime, nous vous recommandons de visiter la plage à Aceh Besar. L'un d'entre eux que vous pouvez visiter est la place de Kuala Lumpur. La place de Kuala Lumpur est située sur le bord de la route nationale Melabuh Banda Aceh. Ces derniers temps, la place Kuala Lumpur est devenue un favori de nombreux touristes. Parce que, en plus d'offrir une beauté naturelle, cette place s'améliore également avec une variété d'ornements magnifiques et romantiques autour de la plage. Sur cette plage, vous pouvez trouver beaucoup de beaux endroits à selfie. Pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à visiter Kuala Lumpur, Cette plage est facilement accessible depuis la ville de Banda Aceh. Vous devez voyager environ une heure de la ville de Banda Aceh. Et pour entrer dans la zone de la plage de Kuala Lumpur, vous devez payer un ticket de 20 000 rupiah par personne. Les frais comprennent les frais de stationnement du véhicule. Arrivé à la plage de Kuala Lumpur, vous sentirez la fraîcheur de l'air de la plage, la voûte de la mer bleue et le sable propre. En outre, sur cette plage, vous pourrez profiter de la voûte de parapluies colorés accrochés. Cet endroit devient un lieu de selfie unique pour les visiteurs. Non seulement cela, cette plage offre également un siège depuis le canapé sur la plage qui surplombe l'océan libre. Il y a aussi une balançoire modifiée comme une cage à oiseaux et une balançoire donnant sur le coucher de soleil et un cadre en forme de l'amour et d'autres bibelots. Tous ces ornements deviennent une photo attrayante pour les touristes. En plus de prendre des photos au lieu de photos uniques, sur cette plage, vous pouvez sentir la fraîcheur de l'eau de mer avec une baignade. Vous pouvez également jouer ou vous détendre le long de la plage. La plage de Kuala Lumpur est suffisamment équipée d'installations telles que la salle de bain, parking, lieu de repos et aussi restaurant. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous et au revoir.
La voix de l'Indonésie depuis Jakarta dans la rubrique Bahasaku comme le média pour préserver la diversité des langues régionales en Indonésie.
La voix de l'Indonésie à Jakarta dans le programme Malang comme média de préserver la diversité des langues locales. Chers amis, nous nous rencontrons de nouveau dans le programme Malang. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter la province des Moluques afin de connaître plus loin la langue Yalahatan. La communauté de Yalahatan est dirigée par un chef de hameau déterminé par le gouvernement de l'État Tamilo. Le chef de hameau est assisté de plusieurs appareils de l'État et supervise sept quartiers. Ce qui est intéressant sur l'appareil administratif du hameau Yalahatan, c'est la domination d'un citoyen nommé Waleiru. Waileru est un clan appartenant à la population autochtone du hameau Yalahatan. Bien que le clan Waileru domine la tendance du hameau Yalahatan, d'autres clans d'immigrants sont également en mesure de prendre soin du village. Les migrants viennent de la région Moluk et de Java. Il y a les communautés de l'île de Java qui se sont installées à Hameau Yalahatan et dans d'autres zones autour des Moluques. Cependant, les communautés japonaises dans d'autres régions viennent régulièrement à Hameau Yalahatan pour vendre leurs marchandises. chers amis, voici quelques exemples de mots dans la langue yalahatan. Lipia-ain, en français, arbre de sagoutier. Tete, en français, coupé. Weti, en français, extraire. Lomi, en français, filtrer. Essevero, en français, cuisiner. Asona, en français, papeda. C'est l'exemple de conversation dans la langue Yalahatan sur Léo qui fait papeda de sagu. Léo tete lipia ain. Léo tete lipia ain. En français, Léo a coupé le sagoutier. Opakela Léo veti lipia. Opakela Léo veti lipia. En français, ensuite, Léo a extrait le sagu. Léo lomi lipia. En français, Léo a filtré le sagu. Opakela Léo esevero lipia naloo asona. Opakela Léo esevero lipia naloo asona. En français, ensuite, Léo cuit le sagu en papeda. Léo en papeda ya Ayane. Léo an papeda ya iane. En français, puis Léo mange papeda avec du poisson. Chers amis, si vous avez des critiques et des suggestions, s'il vous plaît écrivez-nous à voy@waynews.id. Je répète, voy@waynews.id ou à notre page de médias sociaux Facebook The Voice of Indonesia. Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @VoiceIndonesia et Twitter @VoiceIndonesia. Chers amis, c'était le programme Ma langue comme média de préserver la diversité des langues locales en Indonésie. Merci à tous et au revoir.
La voix de l'Indonésie depuis Jakarta dans la rubrique Bahasaku comme le média pour préserver la diversité des langues régionales en Indonésie.
Nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Pelangi Nada. Le magazine musical vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis de la Voix d'Indonésie dans le monde entier. Merci d'écouter la Voix d'Indonésie. Voici le programme musical. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.voinews.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons des chansons nostalgiques chantées par Frankie et Jane. Bon serviteur, pour ouvrir notre rencontre, voici sa chanson intitulée « La saison des fleurs ». Bonne écoute.
Kampungan di musim pati indah warnanya.
Serviteurs, vous venez d'écouter la chanson intitulée La saison des fleurs. Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique à french@voe.ca.id, et nous vous invitons également à rejoindre la Voix de l'Indonésie sur Facebook Voice of Indonesia ou à nous suivre sur Twitter @voeindonesia. Frankie et Jen Sahilatua sont frères et sœurs. La fusion des voix Frankie et Jen fait que ce groupe a un caractère distinctif. Ce groupe apporte des genres pop, folk et country. L'album intitulé Saison des fleurs est un album qui est devenu le point de départ de leur popularité. Cet album, lancé en 1978, a été un énorme succès sur le marché. Il y a quelques hits que les gens se rappellent encore aujourd'hui comme Saison des fleurs, Bus et Voyage. Auparavant, vous avez écouté une chanson intitulée Saison des fleurs qui a été créée par Frankie Sialtua et a été classée dans la 119e des 150 meilleures chansons indonésiennes de tout le temps de la version du magazine Rolling Stone Indonesia. Bon, serviteurs, écoutons donc maintenant la chanson suivante de Frankie et Jen intitulée Voyage. Bonne écoute.
Dengan kereta malam
serviteur, vous venez d'entendre une chanson intitulée Voyage de Frankie et Jane. Contrairement à la chanson Saison des fleurs qui contient sur le coup à la nature, la chanson intitulée Voyage a soulevé le thème de la vie quotidienne. La chanson a été créée par Frankie Sahilatua et Yudis. La chanson Voyage raconte le voyage d'une fille qui rentrera à la maison en train. Pendant le voyage, il y avait une mère assise devant elle qui la regardait avec mélancolie. Apparemment, son visage est semblable à sa fille qui est morte. Bon, serviteur, avant de terminer notre programme, voici donc les dernières chansons de Frankie et Jane intitulées « Pour le vent et les oiseaux » et « L'arc-en-ciel dans la saison des fleurs ». Bonne écoute et à demain.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca. Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, La Voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta, 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, La Voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.